VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 11 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Et nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les évêques catholiques expriment leurs soucis à la SADC en prélude aux élections du 23 décembre.
Au Mali, première réunion du nouveau gouvernement formé après la récente présidentielle.
Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, sera inhumé jeudi au Ghana, où sa dépouille est arrivée hier.
Washington menace de sanctions la CPI si elle poursuivait des Américains, Israël ou d'autres alliés des États-Unis.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont dit avoir sensibilisé la SADC sur les risques d'un chaos provoqué par le report ou la tenue d'élections biaisées le 23 décembre. Le point avec Irénée Herman Oumbo.
La déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo a été soumise au président zambien Edgar Lungu à Lusaka, responsable des affaires politiques de la SADC. Les évêques congolais s'inquiètent de l'existence sur les listes électorales de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale, de l'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter, de l'exclusion du processus électoral de quelques acteurs majeurs de l'opposition et de la répression des marches d'opposants. D'après les prélats congolais, il y a risque de ne pas avoir des élections le 23 décembre 2018 ou avoir des élections biaisées si ces inquiétudes ne trouvent pas de bonne réponse. La Cour constitutionnelle a invalidé le dossier de candidature à la présidentielle de l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba. Son parti, le MLC, a promis de mener des actions d'envergure dans les prochains jours.
Au Mali, le nouveau gouvernement a tenu hier son premier conseil de cabinet. Tous les 32 membres de la nouvelle équipe étaient réunis autour du Premier ministre, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Comme il est de tradition, la première rencontre avec les anciens et nouveaux s'appelle le conseil de cabinet. Le tout autour du chef du gouvernement, Soumaïlou Boubey Maïga, premier ministre du Mali.
J'ai invité les ministres à faire en sorte que très tôt nous puissions être en capacité de répondre aux attentes les plus urgentes de nos concitoyens, qui sont des attentes liées à la cohésion sociale, à la sécurité, mais aussi à l'accès à tout ce qui fonde la légitimité de l'État, sa capacité à offrir des services et des opportunités à l'ensemble de nos concitoyens.
Le Premier ministre a insisté sur la solidarité, l'engagement à la tâche, la collégialité pour une équipe forte. Kamissa Camara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
C'est une lourde responsabilité que le président m'a confiée de conduire la diplomatie malienne et je compte la mener avec tout le courage et puis toute l'audace nécessaire à la conduite de la diplomatie. Premier conseil, c'était vraiment une prise de contact. Le Premier ministre a décidé de nous réunir pour que nous puissions connaître qui est qui.
Ces orientations du gouvernement ont été données avant la feuille de route que le président de la République présente le mercredi prochain lors du premier conseil des ministres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, la CMFPR2, un mouvement armé de la plateforme, impatient de voir ses éléments intégrés dans le mécanisme opérationnel de coordination, a assiégé la base du MOC à Tombouctou, et ce au lendemain de l'assassinat de son commandant. Les précisions de notre correspondant sur place, Abdoulaye Traoré.
Hier matin, la CMFPR2, un mouvement de la plateforme, a assiégé la base du mécanisme opérationnel de coordination. Le but, c'est de faire valoir les droits à l'intégration au MOC. Colonel Major Ibrahim Issa Diallo, commandant de la CMFPR2.
On est allé pour des revendications, pour un rappel du gouvernement et de la médiation internationale, pour leur faire savoir que nous avons été trop patients. Nous attendons impatiemment dans les jours à venir la rentrée de nos éléments au sein du MOC.
Cet acte a occasionné des tirs nourris toute la matinée, créant la panique au sein de la population. Colonel Major Ibrahim Issa Diallo.
Il y avait les forces de sécurité des Nations Unies, tels que les contingents burkinabés, qui ont commencé à faire des tirs de sommation sur nous. Je peux même dire qu'ils ont tiré directement des tirs tendus sur la pare-brise.
Selon le même colonel-major, aucun de ces éléments n'a tiré une balle, car leur objectif n'est pas d'affronter un quelconque groupe armé.
Puisque nous croyons que l'AMINUSMA est là, c'est un corps impartial qui est là pour tout le monde, une force d'interposition.
La piscose est générale pourtant au sein de la population. Avec l'assassinat du commandant du MOC, le colonel Salim Oulumbeki, dans la nuit du dimanche à lundi. À en croire le colonel-major de la CMFP2, il n'y a aucun lien entre ces deux événements. Seule une vraie enquête pourra donc établir les responsabilités. Abdoulaye Traoré Tombouctou pour VOA Afrique.
La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier au Ghana, son pays natal. Il sera inhumé jeudi. Jacques Aristide.
Son épouse, Anané Maria Annan, ses enfants et de hauts responsables de l'ONU ont accompagné le cercueil venu de Genève, qui était recouvert du drapeau bleu des Nations Unies. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, était présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, de hauts dirigeants militaires, ainsi que des hommes politiques y ont également participé. Le cercueil a été porté par 6 soldats. Le public sera autorisé à rendre hommage à Kofi Annan à partir d'aujourd'hui. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues ce jeudi pour les obsèques nationales. Kofi Annan, qui résidait en Suisse, sera enterré dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans.
Au Nigeria, une explosion et un incendie dû au gaz ont tué plusieurs personnes hier, a indiqué la présidence du pays, sans pouvoir fournir de bilan plus précis. L'incident dans lequel des dizaines de personnes ont été brûlées s'est produit dans une station de remplissage de bouteilles de gaz à Lafia, près de la capitale Abuja, dans le centre du pays.
Et au Cameroun, une partie de la dalle d'un hôtel en construction dans la ville de Garoua s'est affaissée vendredi dernier sur un chantier de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui est prévue pour 2019. Pas de victimes à signaler. L'annonce de cet incident a été faite hier soir dans un communiqué par la société qui dirige ces travaux. De Yaoundé, précision d'Emmanuel Jultap.
Pour la société Moutadil Cameroun, qui conduit les travaux de construction de cet hôtel, il était question de faire un test de résistance de l'échafaudage avant le coulage proprement dit de la dalle d'un étage. Le test de résistance s'est avéré négatif puisqu'un segment de la dalle du premier étage de l'hôtel en chantier s'est affaissé sur une surface de 25 mètres carrés. En cause, expliquent les techniciens de l'ouvrage, l'érosion consécutive aux eaux de pluie très abondante sur la ville de Garoua ces derniers jours. Conséquence immédiate, le chantier a connu un retard de quelques jours pour le coulage du béton sur la surface effondrée, a confié à VOA Afrique le responsable de la communication de la société Mota Injil Cameroun. Cependant, la société n'a pas souhaité expliquer si le nouveau test de coulage de la dalle en question a été satisfaisant. L'annonce de l'effondrement d'une partie de cet hôtel de 4 étoiles de 70 places a jeté un vent d'inquiétude au sein de l'opinion publique nationale qui se demande si le Cameroun sera prêt le jour dit, comme l'avait prédit le président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont mené hier une attaque sans précédent contre la Cour pénale internationale et menacé ses juges et procureurs de sanctions s'ils s'en prenaient à des Américains, à Israël ou à d'autres alliés de Washington. Des détails avec Nanit Tanani.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a accusé la CPI d'être inefficace, irresponsable et carrément dangereuse. Il a dénoncé la possibilité d'une enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan, mais aussi d'éventuelles enquêtes contre Israël à l'instigation de l'autorité palestinienne. Si la CPI s'en prend à nous, à Israël ou à d'autres alliés des Américains, nous allons interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux États-Unis, prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain et engager des poursuites contre eux dans notre système judiciaire, a mis en garde le conseiller du président Donald Trump. Washington n'est pas membre de la CPI. Cette juridiction a répondu agir strictement dans le cadre légal défini par le statut de Rome et être attachée à l'exercice indépendant et impartial de son mandat.
17 ans après les attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center à New York et le Pentagone tout près d'ici à Washington, le président Trump se rend aujourd'hui à Shanksville. Il va y rendre hommage, comme ses prédécesseurs George W. Bush et Barack Obama, aux héros du vol 93. C'est près de cette toute petite ville de Pennsylvanie qu'un des quatre avions détournés par des membres d'Al-Qaïda a fini sa course. Des passagers avaient alors tenté de reprendre le contrôle de l'appareil qui se dirigeait vers Washington. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3000 morts aux États-Unis, dont une immense majorité à Manhattan.
Évacuation obligatoire d'au moins 1 million d'habitants, fermeture de dizaines d'écoles et des magasins pris d'assaut. La côte est des États-Unis se prépare activement à l'arrivée du puissant ouragan Florence qui devrait frapper de plein fouet la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie dans quelques jours. Les autorités locales se sont mobilisées dès ce week-end, déclarant l'état d'urgence. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Nouvelle compagnie aérienne nationale tchadienne en octobre prochain. Résultat d'un accord avec Ethiopian Airlines, Tchadia Airlines disposera d'une flotte initiale de 2 avions bombardiers Ki-400 et desservira les 4 principales villes du pays et des pays voisins. N'Djamena détiendra 51% de la nouvelle compagnie. Ethiopian Airlines a déjà injecté 30 millions de dollars en Zambie pour relancer la compagnie aérienne nationale. Elle sera aussi entièrement propriétaire d'une nouvelle compagnie aérienne au Mozambique. Djibouti, la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Guinée sont également en négociation avec Ethiopian Airlines pour créer de nouvelles compagnies. Premier business forum Togo-Chine à Hangzhou. Le président fort Nyasimbe est à l'offensive pour vendre l'ambitieux plan national de développement du Togo au secteur privé. Il a présenté les potentialités de son pays et vanté son positionnement géographique et géopolitique. Ses atouts font de Lomé une porte d'entrée naturelle en Afrique de l'Ouest. Accord de financement de 3 milliards de dollars entre l'Égypte et la Société islamique internationale de financement du commerce. D'une part, le gouvernement fournira des produits de première nécessité à environ 67 millions d'Égyptiens. De l'autre, il financera l'importation des produits de base, notamment le pétrole, les produits pétroliers et le gaz. Ce financement apporte à plus de 9 milliards de dollars l'enveloppe que la filiale de la Banque islamique de développement a déjà déboursée en faveur du Caire.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Salah et Mané en lice pour l'équipe type de la saison 2017-2018.
La Fédération internationale des footballeurs professionnels a dévoilé hier la liste des nominés pour le 11 type de l'année qui sera connue le 24 septembre. On y retrouve 2 Africains, ils sont également dans le même club. Il s'agit de Mohamed Salah et de Sadio Mané de Liverpool. L'Égyptien est d'ailleurs déjà en lice pour 2 trophées lors de cette même cérémonie, avec ses nominations au prix du meilleur joueur et du plus beau but. 25 000 footballeurs professionnels dans 65 pays ont participé au vote pour dégager les 5 gardiens, 20 défenseurs, 15 milieux et 15 attaquants.
Zidane compte retrouver un banc d'entraîneurs bientôt.
Zinedine Zidane a ouvert la voie à un prochain retour sur un banc d'entraîneurs. Il avait décidé de quitter le Real Madrid à la surprise générale à la fin de la saison dernière, 5 jours seulement après avoir mené le club à une 3e Ligue des Champions consécutive. Le Français avait estimé qu'un changement était nécessaire pour que le club continue à gagner. Depuis, des rumeurs l'ont notamment annoncé à Manchester United, où le poste de José Mourinho apparaît de plus en plus précaire.
Cyclisme Tella en jaune après l'étape 2 du Tour de la Côte d'Ivoire 2018.
Hier s'est couru la 2e étape de l'épreuve longue de 120 km. L'Ivoirien Souleymane Traoré est arrivé en premier, Mais au classement général, le Camerounais Artus Tella est en jaune. Sur une arrivée en sprint, après 3h06'43, Traoré a devancé son compatriote Issiaka Cissé et le Malien Brahima Koulibaly. Il garde 18 secondes d'avance sur Cissé et le Burkinabé Mathias Sorgho. La troisième étape, c'est pour ce mardi et ça se court entre Banaoyen Ferry et Adzopé, 95 km.
Et ici aux États-Unis, le comité olympique a annoncé le départ de son président.
Larry Probst va quitter ses fonctions à la fin de l'année. Il sera remplacé à compter du 1er janvier 2019 par Suzanne Lyons, ancienne directrice générale du comité olympique américain. Le départ de Larry Probst intervient à la suite de l'affaire Larry Nassar, le médecin de la Fédération américaine de gymnastique, condamné pour avoir abusé sexuellement de centaines de gymnastes pendant 2 décennies.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Cameroun où, dans la nuit de samedi à dimanche, le nord-ouest anglophone a connu une attaque d'autocar à quelques kilomètres de Bamenda. Un chauffeur de bus a été tué et plusieurs personnes blessées. La circulation a repris dans la soirée de dimanche après l'arrivée de l'armée. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint le candidat du Front social-démocrate à la présidentielle du 7 octobre prochain, Joshua Ossi.
C'est impensable que devant la porte de la résidence du gouverneur du Nord-Ouest, que devant la capitale dans le chef-lieu du Nord-Ouest, qu'une centaine de personnes viennent bloquer la circulation pendant plus de 3 heures, utilisent une excavatrice, coupent la route en deux et tout le temps de faire ce travail-là et repartent sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et dont les Camerounais requièrent plus d'informations où on a encore beaucoup trop de questions non répondues dont le gouvernement devra venir répondre. Mais en tout cas, il est évident que ça ne ressemble pas au modus operandi des sécessionnistes dont on a l'habitude jusqu'à présent. Et c'est plutôt une nouvelle approche, si ça vient d'eux, qui a vraiment trop de questions. C'est extrêmement louche.
L'attaque a visé un convoi de bus, mais qui était dans ce convoi? Y aurait-il des personnalités bien spécifiques qui pouvaient être la cible de cette attaque?
Ce qui a été rapporté par ceux qui ont survécu à cette attaque, c'est que les choses se passaient bizarrement et ils étaient surpris à la fin même qu'on leur remette leur téléphone, etc. Maintenant, il faut une enquête, il faut savoir exactement ce qui s'est passé pour savoir qui était dans les bus, est-ce que quelqu'un était visé et au-delà de tout ça, est-ce que tout le monde répond à l'appel après ? Je ne pense pas que l'inventaire même de tous les passagers était fait pour savoir et s'assurer que tous les passagers qui sont arrivés à l'embuscade sont aujourd'hui bel et bien en liberté et libres de leur mouvement. Nous avons des forts soupçons sur le fait que le gouvernement lui-même est impliqué dans la déstabilisation de cette partie du Cameroun, parce que nous ne pouvons pas expliquer comment est-ce que des sites lourdement protégés par l'armée soient attaqués, incendiés, brûlés, comme ce fut le cas il y a quelques jours en arrière entre Babajou et Bamenda.
Mais le gouvernement voulait impliquer, il a déjà perdu à plus d'une centaine de membres de forces et de sécurité.
Ce qui est en train d'arriver en ce moment, ce qui est arrivé il y a moins de 48 heures, est inexplicable pour un pays qui dépense des centaines de milliards pour son armée, pour un pays qui est censé être gouverné, pour un pays qui a une armée très professionnelle avec des militaires qui sont dévoués à la tâche que je connais personnellement. S'il y a des choses comme ça qui arrive, c'est qu'il y a des décisions politiques au-dessus de l'armée.
C'était Joshua Ossi, candidat du Front social-démocrate à la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Au Burundi, cette fois-ci, rentrée des classes hier pour des dizaines de milliers d'élèves du primaire. Le nombre exact n'est pas encore connu. Des inscriptions continuent à se faire dans beaucoup de cantons scolaires. Toujours est-il qu'une diminution des abandons scolaires a été constatée dans certaines contrées du Burundi profond. Mais nombreux sont les enfants qui ne peuvent plus s'octroyer le matériel scolaire requis car les parents n'en ont pas les moyens. C'est ainsi que des bienfaiteurs et des autorités ont distribué certains matériels scolaires dans certaines provinces du Burundi. Reportage de notre correspondant Christophe Kurunziza à Bujumbura.
Dans les ruelles de Bujumbura, des enfants revenaient vers 12h30, certains habillés de leurs uniformes, mais les mains vides, d'autres avec des cahiers dans leurs sacs au dos. Mais dans beaucoup de ménages de la capitale, les enfants n'avaient pas encore acheté tout leur matériel didactique. Leurs parents ont indiqué à VOA Afrique que les temps qui courent ne sont pas adéquats, car lier les deux bouts de la journée devient une gymnastique compliquée. Témoignage de ce parent de 5 enfants qui a requis l'anonymat.
La situation est devenue vraiment très difficile. Moi, ma femme ne travaille plus, je suis seul, et les activités marchent très mal. Alors le rentrée scolaire de cette année, ça stresse beaucoup. Je n'ai même pas encore arrivé à payer le minévar de mes enfants. Les cahiers, je n'ai jamais eu toute la totalité des cahiers.
Mais dans certaines localités de l'intérieur du pays, des bienfaiteurs ont distribué du matériel scolaire aux plus vulnérables, tandis que le président de l'Assemblée nationale burundaise, Pascal Nyabendana, a octroyé aux élèves qui ont fait des camps d'été. Ou le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Jacques Nshimirimana. Cette année scolaire 2018-2019 est meilleure que l'année dernière où on a enregistré beaucoup d'abandons scolaires.
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons pu constater plus de 71 652 cas d'abandon scolaire et 1421 cas de grossesse non désirée. Et là, comparativement aux effectifs de l'année passée, donc c'est-à-dire l'année scolaire 2016-2017, il y a eu une petite dégression par rapport aux effectifs de l'année scolaire 2016-2017. Parce que là, on avait 218 345 cas d'abandon scolaire et pour cette année passée, on a pu recenser 171 652 cas.
Jacques Nshimirimana fustige également le taux d'abandon scolaire à l'est du Burundi de la province de Ruyigi.
Nous avons attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévaut dans la province de Ruyigi, une province qui quitte de 594 cas d'abandon scolaire à 10 838 cas. Donc cela c'est vraiment normal. Demande la conjugaison des efforts de tous les intervenants, donc les organisations de la société civile, les élus du peuple, les députés, les sénateurs, les autorités administratives, sans oublier les parents, sans oublier les enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants.
Signalons aussi que les frais d'inscription pour cette année scolaire ne seront pas payés par les parents, mais seront comptabilisés dans les frais de minerval des élèves. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Concernant toujours l'éducation des enfants, au Nigeria, Tiwa, une peluche, pas comme les autres, qui est devenue très vite la coqueluche des enfants nigérians. Le singe sage ressuscite les contes populaires, comme nous l'explique Salwa Jafari.
Little Billy, there lives a man who has two wives and two daughters.
Dami Lola, 8 ans, et son petit frère écoutent avec intérêt leur histoire préférée, raconté par leur nouveau compagnon, Tiwa, le singe sage.
Mon histoire préférée est celle du pêcheur et de sa femme Cupide. Un poisson leur a offert 3 souhaits, mais sa femme en voulait plus. J'ai appris que l'on doit apprécier ce que l'on a. Et des contes moraux comme celui-ci, Tiwa peut en raconter une trentaine. Tiwa se prête également au chant. Le petit singe a des fans, même parmi les adultes.
Je me souviens des contes qu'on nous racontait au clair de lune, mais les enfants n'ont pas accès à ça aujourd'hui. Ils regardent Disney Channel et Nickelodeon, mais avec Tiwa, je peux leur inculquer notre culture, nos traditions.
Mission accomplie pour Tola Akambi, le créateur fondateur de Tiwa. À travers ce petit bout de chou, il voulait justement préserver les contes populaires traditionnels en utilisant un médium compréhensible et accessible. Tiwa est l'abréviation du mot Tiwa Tiwa en Yoruba. Ça signifie « ceci est le nôtre ».
Tiwa brings back the culture of storytelling.
Nous sommes en train de perdre notre culture. Tiwa ressuscite la culture de la narration avec laquelle nous avons tous grandi. Les parents ne racontent plus d'histoires à leurs enfants. C'est ce que Tiwa fait. En plus, les histoires racontées par Tiwa ont une morale. Elles donnent l'exemple.
Tiwa est fabriqué en Chine. Il coûte 28 dollars. Il est vrai qu'il n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais comme dirait La Fontaine, laissez dire les sots, le savoir à son prix.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les États-Unis ont annoncé la fermeture de la mission palestinienne à Washington et le négociateur palestinien Saeb Berekat a dénoncé une dangereuse escalade depuis que Washington a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Déjà à la fin août, l'administration américaine avait annoncé qu'elle allait cesser de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bassel Tourjman, journaliste palestinien basé à Tunis.
Premièrement, c'est quelque chose qui est attendu, c'est pas une surprise pour les Palestiniens. Le président Donald Trump a décidé que l'Amérique a quitté le processus de la paix et choisi d'être le même camp avec Benjamin Netanyahu. C'est une décision qui ne va pas changer beaucoup parce que les Américains, de plus en plus, ont perdu leur présence diplomatique dans le monde entier. Les relations politiques et diplomatiques entre les Palestiniens et les États-Unis, ils ont coupé plus qu'un an. Ça ne change absolument rien pour les Palestiniens, mais les problèmes maintenant, qu'est-ce qu'ils vont les faire les Américains?
Maintenant, quelle solution? Parce que l'administration Trump demande aux Palestiniens de revenir à la table de négociation.
Table de négociation basée sur quoi? Sur le processus de paix pour mettre fin à l'occupation israélienne en 1967 ou bien pour accepter l'idée de M. Trump pour faire un challenge de siècle entre les Palestiniens et les Israéliens qui dit qu'il n'y a pas de Jérusalem, il n'y a pas de retour de juges, il n'y a pas de droit de Palestiniens, il n'y a pas. Quelles idées de M. Trump elle a eu pour trouver une solution acceptable et globale dans le conflit palestino-israélien?
Mais est-ce qu'on peut le savoir si on refuse de négocier avec les États-Unis? Parce que depuis que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, les Palestiniens ont claqué la porte.
Tout à fait, parce que tu n'as pas le droit de violer les décisions faites aux Nations Unies et tu donnes les capitales comme cadeau pour les Israéliens. Et tu dis, après, viens négocier avec moi. Est-ce qu'il a négocié avec les Palestiniens avant et il a pris sa décision?
Tout le monde est d'accord sur la solution des deux États. N'est-il pas possible de discuter pour que Jérusalem-Est devienne la capitale d'une Palestine indépendante?
Comme lui, elle a décidé que Jérusalem, c'est la capitale unique pour Israël. Ça veut dire qu'elle a annulé le droit des Palestiniens d'avoir leur capitale au Jérusalem-Est. Ce n'est pas les Palestiniens qui refusaient que l'autre partie de Jérusalem, c'est la capitale d'Israël.
Mais Jérusalem-Ouest a toujours été la capitale d'Israël. C'est là-bas où est basée la Knesset.
Non, c'est Tel Aviv, la capitale d'Israël. Il y a toutes les ambassades à Tel Aviv. Il n'y a pas eu de reconnaissance internationale que Jérusalem-Ouest, c'est la capitale d'Israël. Toutes les ambassades, c'est à Tel Aviv. Et jusqu'à maintenant, il y a seulement deux ambassades. La troisième a quitté Jérusalem. Il y a seulement deux ambassades, les États-Unis et à notre pays. Et ça, ce n'est donc pas pour la crédibilité des États-Unis.
Bassel Tourjman, journaliste palestinien basé à Tunis.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.